la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
Henry David Thoreau, Walden. En 1845, Henry David Thoreau part vivre dans une cabane qu'il a construite de ses propres mains au bord du lac de Walden, dans le Massachusetts. Au bord de cet étang, il va réfléchir à sa condition d'être humain et à la vie sociale, alors qu'il est retiré du monde. Il en tire de beaux enseignements qui seront rédigés puis publiés en 1847 sous ce titre « Walden », un des pavés du nature writing. Je vous en livre quelques fragments depuis quelques confinements dans cette chronique, à hauteur d'un petit quart d'heure par semaine, dans la nouvelle traduction qu'en a fait Jacques Mayos pour les éditions Gallmeister. Visiteur. Je pense aimer la compagnie autant que la plupart des gens, et je ne répugne pas à m'accrocher quelque temps comme une sangsue au premier homme robuste qui se présenterait à moi. Je ne suis pas un ermite de nature et je pourrais fort bien rester au bar plus longtemps que le plus assidu des clients si tel était le lieu où mes affaires me menaient. Dans ma maison, j'avais 3 chaises. Une pour la solitude, 2 pour l'amitié, 3 pour le monde. Lorsque des visiteurs venaient à l'improviste en nombre supérieur, ils n'avaient que la 3e chaise à se partager entre tous, mais ils économisaient généralement l'espace de la maison en s'abstenant de s'asseoir. C'est étonnant, le nombre d'hommes et de femmes formidables que l'on peut faire tenir dans une petite maison. J'ai parfois accueilli en même temps sous mon toit jusqu'à 25 ou 30 âmes, accompagnées de leur corps, et pourtant, à la fin, nous nous séparions sans aucune conscience d'avoir été vraiment très près les uns des autres. Bon nombre de nos demeures, qu'elles soient publiques ou privées, me semblent extravagamment spacieuses pour leurs habitants, avec leurs innombrables appartements, leurs immenses halls et leurs caves et celliers pour le stockage du vin et autres munitions de temps de paix. Elles sont si vastes et si grandioses que les susdits habitants semblent être majoritairement la vermine qui les infeste. Je suis surpris lorsque le héros sonne du cor devant les maisons Tremont, Astor ou Middlesex, de ne voir sortir, pour tout habitant, qu'une petite souris qui se hâte de traverser le parvis pour aller aussitôt se cacher en se faufilant par quelques trous dans le trottoir. Un des inconvénients que je constatais parfois à vivre dans une aussi petite maison était la difficulté que j'y avais à m'éloigner de mes hôtes lorsque nous en venions à verbaliser nos grandes pensées à l'aide de grands mots. Nos pensées ont besoin d'espace pour hisser toutes leurs voiles et tirer un ou deux bords avant d'arriver à destination. Le plomb de notre pensée doit avoir surmonté sa déviation latérale et son mouvement de ricochet, après avoir pris sa trajectoire stable et ultime, avant d'atteindre l'oreille du destinataire, sans quoi il risque de ne faire rien d'autre que lui égratigner la tempe. Nos phrases avaient aussi besoin de se déployer et de marquer leurs paragraphes dans l'intervalle. Comme les nations, les individus doivent maintenir entre eux de larges frontières naturelles et même un territoire tampon de taille considérable. Parler avec un compagnon d'une rive à l'autre de l'étang me semblait un luxe rare. Dans ma maison, nous étions si proches que nous ne pouvions même pas commencer à user de notre ouïe. Nous n'arrivions pas à parler suffisamment bas pour nous faire entendre, comme lorsque dans une eau calme, vous jetez deux pierres si proches l'une de l'autre que les ondes qu'elles soulèvent s'annulent mutuellement. Si nous ne sommes rien de mieux que des parleurs loquaces et bruyants, alors nous pouvons nous permettre de nous tenir tout près l'un de l'autre, joue contre joue, et de mêler nos souffles. Mais si nous faisons usage d'une parole pondérée et réfléchie, nous avons besoin de plus d'espace entre nous, afin que la chaleur et la moiteur animale aient une chance de se volatiliser en chemin. Si nous souhaitons jouir au mieux de la compagnie la plus intime de ce qui, en chacun de nous, se trouve à l'extérieur ou au-dessus de toute conversation, alors nous devons non seulement garder le silence, mais encore nous trouver physiquement à une telle distance les uns des autres que nous ne puissions en aucune manière entendre nos voix respectives. Jaugée à cette aune-là, la parole est un expédient à l'usage des personnes dures d'oreille. Mais il est maintes choses subtiles que nous ne pouvons exprimer si nous devons crier. À mesure que notre conversation s'élevait et prenait des accents plus majestueux, nous reculions progressivement nos chaises l'une par rapport à l'autre, jusqu'à ce que leurs dossiers touchassent deux coins de mur diagonalement opposés, et même alors, le plus souvent, cela ne suffisait pas. Ma meilleure pièce, cependant, mon salon de conversation, toujours prêt pour accueillir des hôtes, et sur le tapis duquel le soleil ne tombait que rarement, était la pinède qui se trouvait derrière chez moi. Les jours d'été, lorsque venaient des hôtes de Marc, c'est là que je les emmenais. Un inestimable domestique naturel dont je n'aurais jamais eu les moyens de m'offrir les services s'occupait de balayer le sol, épousseter les meubles et tout maintenir en bon ordre. Lorsque venait un hôte, il partageait parfois mon repas frugal, et cela ne causait aucune interruption dans la conversation si je me mettais entre-temps à préparer quelques rapides ragoûts ou bien à surveiller la levée et la maturation d'une boule de pâte à pain posée au bord de l'âtre. Mais s'il en venait 20, il n'était pas question de dîner, bien qu'il eût pu y avoir du pain pour deux, soit plus qu'il n'en faudrait si nous avions abandonné l'habitude de manger. Mais nous pratiquions d'ordinaire l'abstinence. Et ce n'était jamais vécu comme une offense faite à l'hospitalité, mais au contraire, comme l'attitude la plus convenable et la plus amicale. Le gâchis et la décrépitude de toute vie physique, qui a si souvent besoin qu'on la répare, semblaient alors miraculeusement retardés, et la vigueur vitale ne leur cédait aucun pouce de terrain. Je pouvais ainsi recevoir tout aussi bien 1000 personnes que 20. Et si une seule personne n'est jamais repartie de chez moi déçue ou affamée, alors que j'étais là, elle peut être certaine d'avoir au moins reçu toute ma compassion. Bien que de nombreux maîtres et maîtresses de maison en doute, il est vraiment très simple d'établir de nouvelles, meilleures coutumes en lieu et place des anciennes. On ne mise pas sa réputation sur les dîners que l'on donne. En ce qui me concerne, aucun Cerbère ne m'a jamais aussi puissamment et concrètement découragé de fréquenter la maison de quelqu'un que le grand tralala que son hôte faisait du dîner qu'il m'offrait. Tralala que je prenais comme une façon détournée, très polie, de me faire comprendre que je ne devrais jamais plus m'aviser de lui causer tant de tracas. Je crois que je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce genre de réception. Je serais fier d'adopter comme devise pour ma cabane ces vers de Spencer, qu'un de mes visiteurs avait griffonné sur une feuille de noyer jaune et grise en guise de carte de visite. Arrivés ici, ils emplissent la maison, sans aucun regard pour aucune distraction, là où il n'y en avait point. Le repos est leur festin, et tout à leur gré, l'esprit le plus noble est le mieux satisfait. Lorsque Winslow, le futur gouverneur de la colonie de Plymouth, partit avec un compagnon à pied à travers la forêt pour une visite cérémoniale à Massasoit, et qu'ils arrivèrent dans leur quartier fatigué et affamé, il fut bien reçu par le roi, mais nulle mention ne fut faite d'aucun repas ce jour-là. La nuit venue, je cite leurs propres mots, « Il nous allongea sur le lit avec lui et sa femme, eux d'un côté et nous de l'autre. Le couchage consistait en une simple planche surélevée d'un pied au-dessus du sol et une fine couverture. Par manque d'espace, deux autres de ses lieutenants vinrent se presser contre nous, de sorte que notre logis nous causa davantage de fatigue que notre voyage. À 1h de l'après-midi, le lendemain, Massasoit apporta deux poissons qu'il avait tués, environ 3 fois gros comme une poutre. Une fois ces poissons bouillis, il y eut au moins 40 personnes qui s'efforcèrent d'en obtenir une part. La plupart en mangèrent. Ce fut le seul repas que nous eûmes en 3 jours et 2 nuits. Et si l'un d'entre nous n'avait pas fait l'achat d'une perdrix, nous nous serions remis en chemin à jeun. Craignant de se trouver pris de vertige par manque de nourriture, mais aussi de sommeil, à cause des chants barbares de ces sauvages, qui avaient coutume de chanter pour s'endormir, et désireux de rentrer chez eux tant qu'ils avaient encore la force de marcher, ils s'en allèrent. En matière de logement, il est vrai qu'ils furent mal accueillis, même si ce qu'ils prirent pour une gêne était en réalité certainement conçu comme un honneur. Mais en matière de nourriture, je ne vois pas comment les Indiens auraient pu faire mieux. Ils n'avaient rien à manger pour eux-mêmes, et ils étaient trop sages pour croire que des excuses eussent pu tenir lieu d'aliments pour leurs hôtes. Alors, ils se serrèrent la ceinture d'un cran supplémentaire et s'abstinrent du moindre commentaire. Lors d'une autre visite, en saison d'abondance cette fois, Winslow eut l'occasion de constater que les Indiens ne manquaient pas de générosité. Pour ce qui est des hommes, on n'en manque jamais nulle part. Je reçus plus de visites alors que je résidais dans les bois que durant aucune autre période de ma vie. Je veux dire par là que j'en reçus un peu. J'y accueillis un certain nombre de personnes dans des conditions plus plaisantes que je n'eusse pu en trouver nulle part ailleurs. Mais les gens venaient moins me voir pour des motifs futiles. En ce sens, ma compagnie s'étiola en proportion de la distance qui me séparait de la ville. Je m'étais retiré si loin dans le vaste océan de la solitude dans lequel se déversent les fleuves du monde que, pour l'essentiel, en ce qui concernait mes besoins personnels, seuls les sédiments les plus précieux parvenaient jusqu'à moi. De plus, le vent portait à mes narines des effluves prouvant l'existence de continents vierges et inexplorés à l'autre bout des mers. C'était un nouvel extrait de Walden de Henry David Thoreau, dans la traduction de Jacques Mayos pour les éditions Gallmeister.